CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans Entrepreneur de légende, le podcast. Je suis Michaël Icard, journaliste pour CDI Média et je suis accompagné de Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès. Bonjour Sylvain.
Bonjour Michaël.
Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur l'origine d'une invention incontournable, l'automobile. Et pour ce faire, nous allons raconter l'histoire de Carl Benz et de Gottlieb Daimler, qui sont à l'origine de la célèbre Mercedes-Benz. Mais pour arriver à cette iconique voiture, la route est longue. Alors Sylvain, je te propose que nous ne perdions pas de temps et que nous y allions sur les chapeaux de roue.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Alors autant prévenir, l'histoire est très compliquée, il y a beaucoup de personnages. On va débuter avec l'histoire de Carl Benz qui commence en 1844 à Karlsruhe.
Alors en effet, Carl Benz est né en 1844 à Karlsruhe, donc pas très très loin de l'Alsace, pas très loin de la frontière française. Donc son père est conducteur de locomotive, sa mère femme au foyer. Ce qui se passe, c'est que son père meurt quand il a 2 ans, il est tout petit, son père décède de maladie. Donc il est élevé par sa mère qui a pas d'énormes moyens, c'est une famille bon, ni riche ni pauvre, disons. Donc il est élevé notamment chez sa famille dans la forêt noire, pas très loin de Karlsruhe. C'est un très bon élève, donc dès qu'il est enfant, il est très éveillé, très, très inventif, très curieux. Et il va retourner à Karlsruhe donc pour faire des études. Et sa mère va faire divers petits boulots pour arriver à financer ses études. Parce que, évidemment, à l'époque, faire des études supérieures, c'était pas aussi commun qu'aujourd'hui. La plupart des gens faisaient quelques années d'études et puis allaient travailler. Mais lui, il aime les études, il a envie de faire ça, il est doué. Et donc, sa mère va reprendre, va se mettre au travail, va reprendre un emploi pour l'aider à financer ses études.
Et il est notamment passionné par les sciences.
Voilà, donc il est bon, on va dire, en toutes les matières, hein, c'est un bon élève d'une manière générale, mais notamment passionné par les sciences et par, on va dire, le bricolage au sens large. Donc assez vite, il développe chez lui, on pourrait dire, une espèce de petit laboratoire où il bricole sur plein de technologies, toutes les technologies du moment. Et donc à l'université, il fait des études de sciences et d'ingénierie où il est tout à fait brillant. Et c'est ces études qui lui permettent d'obtenir un premier emploi dans une fabrique de locomotives. Donc il fait de la serrurerie, enfin. Et il va faire beaucoup de métiers dans l'architecture, il fabrique des ponts, il travaille donc dans la machine à vapeur. Il va changer plusieurs fois de métier après ses études, jusqu'à ce qu'à un moment, il se dise qu'il a envie d'aller plus loin sur une technologie naissante qui est le moteur. Et donc c'est vers cette technologie-là que sa passion le conduit. Et il va créer une entreprise, donc de moteurs, mais pas de voitures. Donc ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'au début, son idée, c'est de fabriquer des moteurs pour l'industrie, puisque les machines étaient entraînées par des moteurs, la force motrice, hein, c'est la révolution industrielle, c'est que les machines ne sont plus entraînées par l'eau, le moulin ou un être humain, mais par des moteurs, d'abord à vapeur, et puis ensuite des moteurs électriques et à essence. Et donc son idée, c'est de fabriquer des moteurs, mais pour l'instant, pour l'industrie, et l'automobile viendra dans un second temps.
Et pendant tout ça, pendant tous ces travaux autour du moteur, il commence quand même à réfléchir à un nouveau type de véhicule.
Oui, donc le moteur au début dans sa tête, c'est plutôt pour propulser des machines, mais il se rend bien sûr compte que le moteur peut aussi propulser un véhicule. Donc petit à petit, l'idée germe dans sa tête. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, il lance une première entreprise. Alors, il y a des bisbilles entre les associés. Donc, il y a une première faillite. Il en relance une autre. Il quitte l'entreprise à nouveau pour des désaccords avec ses associés. Donc, il y a plusieurs rebondissements.
Mais la deuxième entreprise qui va avoir une faillite aussi.
Voilà, une faillite aussi. Mais effectivement, germe de plus en plus dans sa tête l'idée que son moteur pourrait être adapté à un véhicule. Pour faire ce qui va devenir bien sûr l'automobile. Et donc son idée, c'est pas forcément de faire tout de suite une entreprise de voitures, parce qu'il n'y a pour l'instant pas de marché, la technologie n'est pas encore vraiment au point, mais c'est plutôt de gagner beaucoup d'argent en vendant des moteurs, essayer de gagner beaucoup d'argent en vendant des moteurs pour l'industrie, et ensuite avec ce capital de se lancer dans la fabrication de ce qui deviendra l'automobile.
Donc là, il a quand même des idées assez claires sur ce qu'il veut faire pour arriver à ses fins, et il décide de créer une entreprise pour y arriver.
Voilà, donc en 1883, il fonde Benz & Co, donc à Mannheim, donc pas très loin de Karlsruhe, à peu près entre Karlsruhe et Francfort. Et donc, toujours dans l'idée de fabriquer des moteurs stationnaires, et ensuite de faire des voitures. Et donc en 1885, donc 2 ans plus tard, il bricole, on peut dire, sa première voiture, qui à l'époque a un tricycle, c'est pas encore une voiture à 4 roues. Donc c'est un peu, on peut dire que c'est la première voiture, même s'il a que 3 roues, la première voiture à essence de l'histoire. Hein, c'est vraiment lui le pionnier, le premier sur ce type de véhicule. Donc au début, on imagine c'est un véhicule tout à fait rudimentaire, hein, c'est une espèce de gros tricycle qui va à 10 km/h, qui fait un bruit infernal, tout le monde a peur, ça crée de la pagaille parce que les chevaux ont peur de cette espèce de voiture, ça fait du bruit, donc ça crée un peu des paniques dans les rues. C'est une invention qui au début n'est pas forcément très bien vue. Hein. Il faudra un peu de temps pour que la voiture soit acceptée sur la route par les autres usagers et par les pouvoirs publics d'ailleurs.
Ah ben, à l'époque, les gens se déplaçaient en calèche, hein, donc pour eux, il n'y avait pas d'intérêt d'avoir un truc un peu autonome.
Oui, surtout qu'au début, la voiture, elle a très peu d'autonomie, elle roule à 10 km/h, elle tombe tout le temps en panne, elle fait un bruit infernal, elle n'est pas confortable. Donc, c'était vraiment une invention au début. La plupart des gens regardaient ça avec des grands yeux en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? À quoi ça sert ?» Et on trouvait ça dangereux, on trouvait ça bruyant. Ça a mis du temps, il a fallu plusieurs années, décennies même, pour que la voiture soit vraiment acceptée sur les routes.
Et donc, du coup, en 1885, ce prototype, il est fait à partir d'un moteur à essence.
Voilà, c'est le premier véhicule motorisé propulsé par un moteur à essence.
Et en parallèle, pas trop loin de là, il y en a qui travaillent aussi sur un peu la même idée. Et du coup, on va s'intéresser maintenant à Gottlieb Daimler, qui est le deuxième nom important, donc du coup, de Mercedes-Benz. Et donc, son histoire à lui, on va repartir un peu dans le passé, si tu veux bien, Sylvain, elle commence en 1834, près de Stuttgart.
Voilà, donc on a vraiment ces deux personnages en parallèle qui vont arriver ensuite, on va le voir, à Mercedes-Benz. Donc Gottlieb Daimler, il est un peu plus âgé que Carl Benz. Donc comme tu l'as dit, Michael, il est né en 1834 dans la banlieue de Stuttgart. Il est fils d'un pâtissier, mais la pâtisserie, c'est pas du tout son truc. Il est aussi intéressé, comme Carl Benz, par la mécanique. Donc dès qu'il est jeune, enfant, adolescent, il se passionne pour la mécanique. Il fait des études d'ingénieur aussi à Stuttgart, notamment dans le dessin industriel. Et il travaille plusieurs années donc pour diverses entreprises. Alors d'abord un petit peu à Paris, ensuite en Angleterre du côté de Manchester, qui à l'époque le berceau de la révolution industrielle. Hein, donc l'industrie à l'époque, c'est vraiment à Manchester que ça se passe. Ensuite, il revient en Allemagne où il travaille dans plusieurs entreprises. Donc un peu comme Carl Benz en fait, il travaille dans diverses entreprises industrielles de l'Allemagne.
Et en Allemagne, en revenant, il va faire une rencontre un peu déterminante pour lui.
Voilà, donc totalement par hasard, il va rencontrer un jeune orphelin qui s'appelle William Maybach. Donc ils ont à peu près 15 ans d'écart, donc à ce moment-là, Gottlieb Daimler est ce qu'on pourrait dire un ingénieur, un cadre dans une grosse société industrielle, et il rencontre ce jeune homme qui n'a à peu près aucune formation dans la mécanique, un bagage scolaire très, très rudimentaire, on va dire, mais qui est extrêmement doué pour la mécanique. Et Daimler reconnaît tout de suite, chez ce gamin, il n'a que 15 ans, reconnaît tout de suite du génie. Et il voit du génie là où personne n'avait vu le génie de Maybach, mais lui se dit vraiment ce garçon, il est brillant, il ira loin, et on peut dire qu'il le prend un peu sous son aile en fait. Il le fait rentrer dans l'entreprise où il travaille, il lui apprend beaucoup de choses sur la mécanique, et Maybach devient vraiment le bras droit, l'ami et le bras droit de Gottlieb Daimler, et c'est vraiment ensemble ensuite qu'ils vont tous les deux fonder une entreprise et faire énormément d'innovations dans le secteur automobile.
Et leur relation, elle va continuer à devenir de plus en plus proche, puisqu'ils vont, pendant les années qui vont suivre, ils vont affiner ensemble un peu leurs connaissances en changeant d'entreprise, mais chaque fois en se suivant.
Voilà, donc ils changent plusieurs fois d'entreprise. À chaque fois, Daimler, qui est plus âgé, plus expérimenté, change d'entreprise et fait embaucher Maybach dans chacune des entreprises. Donc effectivement, ils travaillent à Cologne, dans une entreprise qui a été fondée par Nicolas Otto, donc un nom qu'on a totalement oublié, mais c'est le père de Gustave Otto, qui est lui-même le fondateur de BMW. Donc on peut dire qu'il a travaillé pour un petit peu l'ancêtre de BMW. Donc l'automobile allemand, en fait, on se rend compte que c'est un peu une grande famille, hein, entre entre Mercedes, BMW et plus tard Volkswagen, on voit que les personnages, c'est un peu les chaises musicales.
Il y a des liens entre tous.
Oui, voilà. Et c'est d'ailleurs pas si surprenant que l'Allemagne soit un pays où l'automobile est aussi développée, puisque c'est vraiment cet écosystème entre tous ces personnages qui fait que les uns les autres sont en compétition, se copient, parfois se concurrencent, parfois s'allient. Et ça crée un terreau très fertile pour l'innovation et le développement de la technologie, un peu comme on le trouve dans la Silicon Valley pour l'informatique actuellement, en fait.
Et donc, leur apprentissage au sein de cette usine à Cologne, il est important.
Voilà, donc ils travaillent donc toujours en tant que salariés, mais en fait un petit peu comme Carl Benz, c'est des profils assez similaires en fait. Hein. Sur leur temps libre, ils passent leur temps à bricoler, à innover, et eux aussi, exactement comme Carl Benz, cherchent à développer des technologies dans les moteurs. Donc avec un petit peu la même idée de se dire que la voiture ou un engin propulsé à moteur, ça c'est pas encore tout à fait au point, mais ils sentent qu'il faut aller dans cette direction-là, quoi. Donc ils bricolent des moteurs, et exactement comme Carl Benz, là encore, ils vont démissionner pour créer leur propre entreprise. Donc là, on est en 1882, donc ils démissionnent et ils s'installent du côté de Stuttgart, donc ils reviennent un peu dans leur région d'origine, et ils lancent leur entreprise avec donc dans l'idée de fabriquer des moteurs pour ensuite faire trois types d'engins, donc des voitures, des engins sur terre, des moteurs de bateaux, donc des engins sur eau, et alors pas encore des avions, mais à l'époque des dirigeables, des moteurs de dirigeables. Et donc c'est les trois branches de leur entreprise qui donnent aujourd'hui les trois flèches, on va dire, du logo Mercedes.
Et ce qui est rigolo, c'est qu'au début, ils bossent sur leur moteur depuis le jardin de la maison de Daimler.
Voilà, donc ils ont acheté une maison, quoi, enfin Daimler a acheté une maison dans la banlieue de Stuttgart, Maybach habite dans les environs, les deux ne se quittent plus, et donc ils installent, ils bricolent, on peut dire, une sorte de laboratoire dans le jardin, quoi. C'est un peu comme la cabane à outils, mais seulement eux, c'est un laboratoire où ils bricolent des moteurs, et où ils vont en fait inventer des moteurs, ils vont apporter des innovations très importantes, et ils parviennent eux aussi à faire une première voiture à moteur. Seulement, ils la font quelques mois plus tard que Carl Benz. Donc, on peut dire qu'à quelques mois après, ils se sont fait voler la vedette pour l'invention de ce qui devient l'automobile.
Et donc, ils créent aussi leur voiture, mais je refais le parallèle avec Carl Benz. Lui, pendant ce temps, il a quand même un peu des soucis administratifs avec sa voiture.
Oui, alors, comme on l'a dit, l'automobile, au début, n'est pas très très bien vue dans les rues, puisqu'on la considère comme dangereuse, donc on limite la vitesse à laquelle elle peut circuler. En Angleterre, au début, quand la voiture arrive en Angleterre, on imposait qu'il y ait un bonhomme, une personne avec un drapeau rouge, qui marche devant la voiture et qui agite le drapeau rouge pour dire « attention, il y a une voiture ». Donc, l'utilité de la voiture dans ces conditions-là est absolument nulle. Légalement, les autorités mettent un peu des freins au développement de la voiture. Ils imposent tout un tas de restrictions parce qu'ils trouvent ça dangereux et inutile. Donc Benz, ce qu'il fait notamment, c'est qu'il invite plusieurs responsables politiques à venir faire un tour en voiture, et il leur montre « regardez, si je respecte les limitations de vitesse, je me fais dépasser par les piétons, ça rime à rien ». Donc petit à petit, ces restrictions sont levées, mais l'automobile au début a vraiment été plutôt freiné, on va dire, par la législation, plutôt qu'encouragé par des responsables politiques qui auraient vu une innovation et qui auraient essayé de l'encourager.
Et donc, du coup, dans les premiers temps, malgré le fait que ce soit une innovation technique ultra importante, c'est quand même un échec commercial, parce que d'une, c'est cher, et de deux, c'est pas bien vu.
Oui, au début, la voiture se vend très mal. Alors, c'est cher, c'est très cher, c'est pas bien vu, personne ne sait la conduire. Il faut aussi avoir ça en tête, hein. C'est que bon, aujourd'hui, on passe le permis, etc., il y a des auto-écoles. À l'époque, ce truc-là, personne ne sait comment ça marche, hein. Le moteur, c'est une invention récente. Mettre un moteur sur une voiture, quoi, sur une charrette...
Ça doit même faire peur.
Oui, les gens, ça leur fait un peu peur, ça fait du bruit, ça a une odeur bizarre, etc. Donc, non, les débuts sont très difficiles, et puis bon, c'est pas encore très fiable, ça tombe souvent en panne, donc si vous êtes pas très mécano, vous passez votre temps en rade au bord de la route, et puis il n'y a pas encore de garagiste, il n'y a pas encore de station essence, donc les infrastructures ne sont pas là. Donc les premières années sont difficiles, d'où l'idée qu'avait Benz, hein, qui était très intéressante, c'est de se dire, ok, je sais que ça ne va pas se développer tout de suite, donc je fais des moteurs pour l'industrie, avec lesquels je gagne de l'argent, et avec cet argent, je finance la voiture, parce qu'il est conscient qu'au début, la voiture, c'est un investissement à fond perdu.
Quelques années plus tard, en 88 précisément, il y a le premier voyage, un peu long voyage, qui est fait avec une voiture.
Oui, donc c'est notamment Bertha Benz, donc sa femme, et leurs enfants qui font un voyage de 200 km. C'est le premier, on va dire, long voyage en voiture. Donc ils vont voir de la famille et ils partent en voiture. Et donc c'est un peu une expédition parce qu'évidemment ça tombe en panne assez, assez régulièrement, les routes ne sont pas adaptées, etc. Il n'y a pas de station-service, donc quand ils veulent faire le plein, bah ils s'arrêtent, ils vont dans une pharmacie acheter des bocals d'éther qui peuvent être adaptables avec le moteur. Et donc ce pharmacien devient sans le savoir la première station-service de l'histoire. Donc c'est vraiment une aventure hein, à l'époque, faire 200 km en voiture. Mais c'est un succès, ils arrivent à faire ces 200 km malgré les pannes et les retards. Et donc la voiture prouve qu'elle peut être un moyen de locomotion aussi sur longue distance. Et donc Carl Benz apporte des améliorations à son véhicule. Les journaux, on va dire les gens un petit peu disons branchés de l'époque, les riches qui veulent être un peu dans l'air du temps commencent à s'y intéresser, aussi qui ont les moyens de s'y intéresser parce que c'est extrêmement cher au début. Et donc petit à petit la voiture commence on va dire à faire son trou dans la société, à la fois parce que le public s'y intéresse et à la fois parce qu'il y a des améliorations technologiques qui permettent de la rendre plus fiable.
Un gros coup de promotion, c'est évidemment l'Expo universelle de Paris en 1889, où elle est exposée.
Oui, donc la voiture attire de plus en plus l'attention. Donc les expositions, notamment l'exposition universelle de Paris en 1889, présente la voiture. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle est appelée véhicule automobile. Puisqu'avant on parlait de véhicules automotrices, donc il y a une petite évolution sur le nom. Donc on va dire que tous les gens qui se préoccupent de science à l'époque commencent à s'y intéresser, les journaux commencent à en parler, et cette technologie gagne en popularité grâce notamment aux courses automobiles. Donc en 1894, il y a la célèbre course entre Paris et Rouen, qui est la première vraie course automobile, où il y a des véhicules un peu de tout type qui sont sur le départ. Et la plupart des véhicules sont motorisés soit par Daimler, soit par Benz. Y compris les véhicules français, par exemple, comme Peugeot et Panhard, sont aussi motorisés par des moteurs allemands. Et il faut dire que les véhicules Daimler, sur cette course, sont un petit peu meilleurs, arrivent globalement mieux classés que les moteurs Benz.
Alors on peut se dire que c'est peut-être Daimler qui, en termes d'innovation, est peut-être un peu meilleur que Benz. Mais par contre, en 1894, Carl Benz, avec la création de Benz Vélo, devient quand même le premier constructeur auto mondial.
Oui, donc la Benz Vélo, c'est alors une voiture à 4 roues, puisqu'on a dit que Benz au début faisait des voitures à 3 roues, des tricycles motorisés, je ne sais pas quel est le terme exact. Et en 1894, la Benz Vélo est la première voiture produite en série, donc par Benz. 1200 exemplaires, bon c'est pas encore énorme, mais c'est la première fois qu'une voiture n'est plus seulement un produit qu'on a bricolé à l'unité dans un garage, mais devient une production de série, ce qui permet à Benz de devenir effectivement le premier constructeur automobile mondial, bon, sur un marché qui est encore tout petit à l'époque.
En parallèle donc, Daimler, fort de ses réussites dans les courses, il décide quand même d'essayer de se lancer dans la création de voitures, alors qu'il est dans une entreprise où il crée que des moteurs lui aussi.
Oui, donc au début, lui aussi fabrique des moteurs. Donc des moteurs, on l'a dit, à la fois destinés à des voitures, mais aussi à des bateaux et à des dirigeables. Hein, c'est les trois flèches de l'entreprise. Mais petit à petit, il va se spécialiser sur l'automobile, parce que c'est là qu'il sent qu'il y a le marché le plus important qui est en train de se développer. Et donc, il se met lui aussi à fabriquer des voitures entières et plus seulement les moteurs. Et avec un très bon succès, puisque ces moteurs, on l'a dit, sont de très grande qualité. Et donc, il va parvenir petit à petit presque à voler la vedette à Carl Benz.
Et donc, du coup, avec son entreprise DMG, Gottlieb commercialise notamment la voiture Daimler Phoenix, qui devient un peu leur voiture phare.
Oui, alors la Phoenix va devenir doublement la voiture phare de l'entreprise par l'intermédiaire d'un personnage assez excentrique qui s'appelle Émile Jelinek, je ne suis pas certain de bien le prononcer, mais on va l'appeler comme ça, qui est un Allemand installé sur la Côte d'Azur et qui est passionné d'automobile et qui devient, on va dire, un agent commercial de Daimler et qui vend la Phoenix auprès, on va dire, des riches Anglais, riches Allemands, riches Français installés sur la Côte d'Azur. Et en parallèle, qui est aussi un passionné d'automobile et de course automobile. Donc il participe à plusieurs courses au volant de la Phoenix. il les gagne parce qu'il est, il est brillant mécanicien et brillant conducteur. Et sa voiture, il va la renommer Mercedes en référence à sa fille qui a une douzaine d'années et qui se prénomme Mercedes.
Un hommage, quoi.
Voilà, un hommage à sa fille. Et donc, cette voiture Phoenix renommée Mercedes gagne toutes les courses, attire à l'attention des médias et des, on va dire du public qui commence à s'intéresser à l'automobile. Et Jelinek va plus loin, il propose à Daimler des modifications sur sa voiture puisqu'il l'utilise beaucoup, il l'a beaucoup utilisé en course, et donc il lui propose des améliorations qui sont des améliorations tout à fait pertinentes qui font que cette voiture va être renommée la Mercedes 35 HP en 1900. Et c'est à ce moment-là, on peut dire, la meilleure voiture du marché, qui va se vendre énormément, qui va évincer ou faire de l'ombre à Benz et à son entreprise. Et vu qu'elle marche très bien, et ben ce nom de Mercedes, qui est au début juste le nom d'une voiture, va devenir petit à petit le nom de la marque dans son ensemble.
En 1900, ça marque aussi l'année de décès de Gottlieb Daimler.
Oui, il décède en 1900 d'une maladie, son fils Paul lui succède, donc il décède, on peut dire, un peu au moment où Daimler prend vraiment son envol, justement avec les Mercedes.
Et donc le succès de la Mercedes, tu l'as dit, bah, ça va mettre un peu à l'écart petit à petit Carl Benz et ses voitures.
Oui, donc les Mercedes sont les meilleures voitures du moment. Et donc Benz, lui, peine un peu à se maintenir sur le marché. Donc en fait, il va un peu se diversifier. Il va faire des camions, il va faire des ambulances. Il va faire un peu d'autres produits parce que sur le segment de la voiture pure, il commence à être dépassé par Daimler. Et les deux groupes qui jusqu'à présent ont évolué en parallèle commencent à travailler de plus en plus ensemble jusqu'à arriver à la fusion en 1926. Donc la fusion des deux groupes qui va donner ensuite la marque Mercedes-Benz, donc en associant la marque Mercedes et le nom de Benz tel qu'on le connaît aujourd'hui encore.
Et cette société, elle va être dirigée au début à la fusion par un futur personnage iconique aussi du monde de l'automobile.
Voilà, donc pendant quelques années, ce groupe nouvellement formé est dirigé par Ferdinand Porsche. Donc le nom Porsche, on le connaît tous. Hein,
ça nous dit quelque chose.
Voilà, c'est les célèbres voitures. On a dit que l'automobile allemand, c'était un peu une grande famille où tout le monde avait eu un peu des relations avec tout le monde. Et donc effectivement, Ferdinand Porsche dirige l'entreprise quelques années. Et ensuite, il va créer le groupe Volkswagen, donc à la demande d'Hitler, hein, qui arrive au pouvoir et qui veut créer une voiture populaire pour l'ensemble des Allemands, d'où le nom Volkswagen, la voiture du peuple, puisque, on le rappelle, jusque-là, la voiture, c'est un produit plutôt de luxe, plutôt réservé aux riches, sauf aux États-Unis où Henry Ford a créé la Ford T, mais en Allemagne, c'est encore un produit haut de gamme. Et donc Ferdinand Porsche va ensuite quitter le groupe Mercedes-Benz pour développer Volkswagen.
Carl Benz décède, lui, en 1929.
Voilà, donc Carl Benz décède en 1929. L'entreprise continue à prospérer, comme on le sait. Elle va apporter plusieurs innovations dans le domaine automobile. On peut penser notamment au freinage ABS ou à l'airbag. Et ces innovations font que Mercedes est encore aujourd'hui associée à des voitures de très grande qualité.
Désormais, donc on l'a dit, même si le groupe Daimler n'a plus aucun lien avec les deux familles, il reste un des fleurons de l'automobile grâce notamment à toutes les innovations que tu viens de dire. Et il est sûr qu'il durera encore longtemps. Merci Sylvain.
Merci Mickaël.
Ce portrait est donc tiré de ton nouveau livre « Entrepreneur de légende », tome 2. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle success story à écouter sur CDI Podcast ou sur toutes les plateformes audio. À bientôt.
CDI Podcast. Entrepreneur de légende.